Au commencement, tout était en ordre, pur et vierge sur la terre. Quand soudain vint un jour maudit de bénédiction de l'ère 666, le métal. Les températures devinrent de plus en plus chaudes, de plus en plus insupportables. L'air moite et humide causait la perte de populations toujours plus nombreuses. Et ce fut le début de la fin. Et ce fut la fin du commencement. Et ce fut le Global Metal Warming.
Global Metal Warming. Global Metal Warming.
Et bonsoir, bienvenue à vous, amis humains, dans ce nouveau Global Metal Warming. Comme cela arrive parfois, pour ce soir, on va plonger dans l'univers d'un groupe, du moins en partie, et ce, grâce à la rencontre avec ce dit groupe lors d'une interview que vous pourrez retrouver en format un peu plus court côté Spotify dans les interviews du Global Metal Warming. L'embarquement ce soir va partir dans des contrées plus médiévales, des forêts, des ruines, avec le groupe de black metal français Dark and Old. Le Zoom légendaire du Global Metal Warming a en effet eu la chance de les rencontrer. On s'est tranquillement installé au bord d'une rivière, c'était très champêtre, c'était parfait, avec ceux que je nommais Cervantes et Aldebaran, fidèles à ma prononciation un peu exotique des noms et des mots. Des noms d'artistes et de scènes qu'ils vont nous expliquer juste après dans cette interview et qui correspondent aux personnes de Julien et Guillaume, chanteurs et guitaristes de la formation. Les Dark and Old qui nous ont ce soir-là embarqués dans leur univers de black metal, mystique et mystérieux, ça fait du bien. Si vous écoutez souvent le Global Metal Warming, vous savez que c'est là un des premiers et grands amours de votre narratrice. C'était un régal. Je vous invite bien sûr à les voir, puisque pas mal de dates s'annoncent. Ils en parlent à la fin de cette interview et je peux vous en rajouter une là tout de suite qui n'était pas encore confirmée. Ils seront au Forest Fest Open Air en Suisse, festival qui aura lieu les 10 et 11 juillet prochains avec Primordial en tête d'affiche et toute une programmation des plus savoureuses. Le Dark Medieval Fest, c'était à Lamur sur Azergue, c'était le 2 mai. Un super festival qu'on réévoquera prochainement avec une émission consacrée au groupe Lug, présent également durant cette soirée-là. Mais pour ce soir, c'est bien avec les Dark and Old qu'on embarque pour une heure environ, fidèle au temps approximatif du Global Metal Warming. Et ce que je vous propose, c'est de parcourir quelques titres de leur dernier album, Le Fléau du Rocher, album que je vous conseille bien sûr d'écouter en son entier. Ce soir, les titres ne seront pas dans l'ordre chronologique, mais arriveront pour illustrer les propos des artistes et rythmer cette interview comme on aime à le faire dans le Global Metal Warming. Je vais donc à présent laisser la parole à Cervantes et Aldebaran. Bon, vous m'entendrez encore un peu quand même, hein ? Et vous voyagerez avec les titres suivants, le cortège royal qui va ouvrir le bal, dans l'antre de la Vruivre, l'ascension du mage noir, la touche, je n'ai pas pu résister, de musique ambiante, d'atmosphère, qui peut faire penser au tout premier album des Dimmu Borgir, avec le morceau Sortilège ancestral suivi de la Cavalerie fantôme. Vous entendrez également le morceau Troubadour. Et pour finir, le titre éponyme à l'album, le morceau phare, c'est-à-dire le Fléau du Rocher. Je vous souhaite donc un bon voyage, et si vous voulez écouter et réécouter à l'infini cette émission, bien sûr, vous pourrez la retrouver en podcast côté radiosaintferréol.com, en passant aussi par la page Facebook du Global Metal Warming, ou encore sur Rock en Folie, qui était d'ailleurs activement présent lors de ce Dark Medieval Fest, et avec qui on a pu partager un moment de plateau radio. Enfin, c'était bien. Belle soirée et bon voyage ce soir dans le Global Metal Warming avec les Dark and Old. We'll be right back. On est là au Dark Medieval Fest avec les Darkenhold. Salut à vous.
Salut à toi.
Alors avec Cervantes.
Ouais, Cervantes, c'est moi.
Cervantes.
Et Aldébaran.
Aldébaran, bravo.
Pour vos noms de scène.
Ce sont des pseudonymes, ouais. Moi, sinon, c'est Guillaume.
Et Julien.
Et est-ce que je peux vous poser la question d'où viennent les pseudonymes, déjà, comme ça, d'emblée?
Alors, moi, c'est un pseudonyme que j'avais déjà dans mon précédent groupe qui s'appelait Artefact. Et alors, c'est un nom qui m'est apparu comme ça en tête. Et après, je me suis rendu compte que c'était le chevalier du Zodiac du Taureau, dans le dessin animé fameux.
C'est pour ça que ça parle.
Mais aussi, c'est quand même une étoile dans la constellation du Taureau. Hein.
Voilà. Et Cervantes, alors ça n'a rien à voir avec l'auteur évidemment de Don Quixote, c'est simplement qu'à l'époque je cherchais un nom de scène et j'étais particulièrement fan d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelait Cervantes de Léon, et comme Léon est mon nom de famille, effectivement il y avait une connotation, donc c'était un pirate maudit portant une épée diabolique, et ça me plaisait bien, c'était ma période pirate des Caraïbes, ça me plaisait bien le jeu de mots avec mon nom, je trouvais que Cervantes ça sonnait bien et c'est resté. Mais tout le monde pense que c'est par rapport à l'auteur de Don Quixote, pas du tout.
Et en fait non, c'est un but en erreur.
Voilà, ça vient d'un jeu vidéo.
Vous avez des beaux, mais ça fait des beaux personnages, c'est un peu vos personnages dans le groupe.
C'est ça, peut-être. Exactement.
C'est
ouais.
Ça.
Voilà, on a tous des pseudonymes, sauf le guitariste Anthony.
Ah, et un résistant.
Ouais, lui, il a résisté jusqu'au bout. Ouais. Mais on a à l'époque.
Anthony reste Anthony.
Alors, à l'époque, c'est le bassiste,
ouais.
Qui a aussi son projet à côté qui s'appelle Belloré. On a Abbott à la batterie, et Anthony, donc, à la guitare. Ouais.
Ouais. Et vous êtes tous ces membres-là du groupe depuis le début? Les mêmes?
Alors, au début, on a commencé en trio.
Oui.
Donc j'étais en 2008 encore dans le groupe Artefact. On a sorti 3 albums, on a fait des tournées, on a joué en Allemagne, au Wacken, entre autres. Et donc j'ai voulu faire autre chose. Et c'est Cervantes que je connaissais depuis un moment en fait. Hein, on se connaissait depuis l'année 2000. On partageait déjà beaucoup de points en commun, en musique et tout ça. Donc on a formé ce. Mais tout de suite en fait, on a eu aussi Abbott. Ça s'est fait quasi en même temps. On jouait ensemble dans un groupe qui s'appelait Ethereal. C'était plus du Doom Death, voilà, un peu nostalgique, tout ça.
Mmh.
Et voilà, donc Darkenhold est né en 2008, à partir de ce trio. Et ensuite, en 2009, assez rapidement, on a rencontré à l'époque et Anthony, donc qui étaient des connaissances des collègues à l'époque.
Et qui au départ était la plus sur scène, non, c'est ça?
Oui, en fait, le groupe est vraiment construit autour de ce trio de base, qui sommes nous qui enregistrons en studio. Aldébaran fait en studio la guitare, la basse, les claviers, plus les chœurs, moi le chant aussi. Et les samples aussi, et le Abbott fait la batterie et moi le chant, et donc Anthony et Alévoc sont là pour la scène, ils n'interviennent pas en studio, vraiment comme ça, c'est un fonctionnement qu'on a toujours eu et qui se maintient ainsi.
Oui, et qui sait, vous êtes peut-être plusieurs à le faire, mais qui compose principalement?
Alors la musique est intégralement composée par Aldébaran et les paroles par moi.
Ouais.
Après on a un mode de fonctionnement qui est quand même bien rodé depuis des années, c'est-à-dire qu'Aldébaran compose la musique, me la propose, moi je lui fais des retours sur les structures, sur des choses que je peux imaginer, sur des parties que je verrai s'intégrer. Il a toujours la grande délicatesse et la grande gentillesse d'écouter ce que je lui dis, et en contrepartie bien évidemment il me fait un retour sur mes paroles quand ça ne va pas,
voilà.
Quand il veut les remanier, quand il y a des textos qui ne lui parlent pas, et donc on essaye de s'écouter avec le bien commun supérieur qui est celui de Darkenhold.
Oui, et oui, ça peut être toujours simple de s'accorder aussi.
Ben, en fait c'est surtout auprès de la Vouivre qui est l'entité supérieure qui nous regarde et qui nous juge, donc c'est elle qui a le dernier.
C'est ça.
Voilà, résultat, le dernier verdict, ouais. Plutôt. Ouais. We'll be right back.
sommeil. Autant l'escargot qui scelle son pouvoir de métamorphe, elle révèle sa nature.
On cherchait depuis le début à avoir une espèce d'animal emblématique et on a trouvé celui-ci. D'ailleurs, on pensait au début à appeler le groupe Vivern, mais c'était déjà pris par une quinzaine de formations différentes.
Ah ouais.
Voilà, donc on a laissé tomber, mais la vouivre nous est restée. Elle est là depuis le début, depuis le premier logo. Hein. Et elle apparaît sur chaque album. Chaque album a au moins un morceau qui lui est dédié.
Ah oui.
Même Memoria Silvarum, elle est bien cachée. Ça n'apparaît pas dans le titre de la chanson, mais elle est quand même bien cachée dans un des morceaux. Mais elle est sur tous les albums.
Et on la retrouve en visuel et donc oui. Vous en parlez aussi.
Enfin, bien sûr.
Elle chante à son sujet.
Oui, bien sûr. C'est une figure qui fait partie un peu du folklore français hein,
ouais.
Et qu'on a adapté pour notre univers à nous.
Et tu peux nous la décrire un petit peu justement.
Alors la vouivre techniquement, on fait la différence entre une vouivre et un dragon. Les dragons ont des pattes avant et arrière. La vouivre n'a pas de pattes avant, ce sont les ailes. Et d'ailleurs techniquement, les dragons de Game of Thrones sont des vouivres hein, parce qu'ils n'ont pas de pattes avant. Mais bon, ça on peut pas le
savoir. Il y a un scoop là.
Voilà.
Ouais, y a un scoop,
mais techniquement,
là.
A priori, ce sont des vouivres. Mais la vouivre, c'est aussi une créature mythologique. Que ce serait une femme portant une escarboucle sur le front, donc un diamant, un joyau rouge étincelant. Qu'elle dissimule et qui lui permet notamment de se transformer en serpent d'eau, etc., ou en dragon, effectivement, enfin en vouivre selon les différents mythes. Et donc, on a toujours associé, c'est pour ça que la question de l'escarboucle, de créatures souterraines, travaillant, enfin se dissimulant dans des cavernes, fait partie de l'univers de Darkenhold. Et elle est beaucoup plus au centre du dernier album, Le Fléau du Rocher, où elle est un des protagonistes, puisque dans l'histoire, c'est une sorcière métamorphe qui se transforme en vouivre, dans le dernier album, dans Le Fléau du Rocher.
Dans Le Fléau du Rocher, mais cet album n'est pas consacré à elle.
Elle fait partie, c'est un des personnages principaux. Ouais, c'est un des personnages principaux, parce qu'il y a plusieurs personnages principaux.
Oui.
Le mage noir, le fils du roi, et la vouivre et le troubadour. Donc c'est les quatre personnages principaux qui constituent l'articulation de l'histoire.
C'est tout un monde, cet album.
Alors oui, c'est une histoire en elle-même, mais qui reprend les grands classiques et les bases de Darkenhold. Dans tous les albums Darkenhold, il est question de tours, de sorcellerie, de secrets magiques, d'artefacts, de vieux grimoires. C'est notre univers depuis le début.
Mm-hmm.
Et on les a condensés dans un album qui rassemble aussi une histoire autour de ça.
Oui, et tu chantes principalement en français.
Oui, depuis trois albums. Les deux premiers albums sont en anglais, exclusivement.
Oui, il y a eu un peu des deux.
Castellum fait la navette entre les deux langues. Et à partir de Memoria Silvarum, et donc après Arcane et Sortilège et Le Fléau du Rocher, sont intégralement en français.
Ok. Castellum, ça me fait simplement penser qu'on peut quand même voir, rien qu'avec vos visuels, que les châteaux ont une place importante dans votre univers.
Oui, bah déjà
les
dans le
ruines,
logo.
J'allais dire aussi.
Oui,
les
ruines,
anciens
les châteaux. Tous les monuments historiques, ouais. L'histoire, le passé. Le logo, en fait. Hein. Vous pouvez déjà trouver un château sur le logo. Et. En fait, c'est pas forcément quelque chose de préparé, de conçu comme ça. Voilà, c'est juste des univers qu'on aime bien, qu'on apprécie, et qu'on aime retrouver dans voilà, l'imaginaire de Dark Annals.
C'est ce qui vous inspire, oui. Entre autres.
Les forêts, les châteaux.
Ouais.
Bah, c'est l'endroit où on va chercher notre inspiration, c'est des endroits où on aime randonner, se promener, puisque la Côte d'Azur d'où nous venons est érigée de multiples traces médiévales, hein, des ruines, des vieux châteaux, parfois encore en bon état, certains encore habités. Le château de Villeneuve-Loubet, qui est au centre de l'univers de Dark Annals et qui apparaît sur certains visuels, est un château qui existe encore aujourd'hui, hein, qui date du XIIIe siècle et qui est encore habité aujourd'hui par le comte de Provence. Voilà, c'est une vieille lignée. Effectivement.
Eh oui, pour le coup, celui-ci n'est pas une ruine.
C'est pas une ruine, celui-là.
C'est une différente atmosphère, mais c'est vrai ça. Que c'est intéressant de voir ceux qui ont une vie prolongée, un petit peu comme ça.
Mais je trouve que les ruines ont quelque chose de spécial aussi par rapport au château bien conservé. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses, je trouve, à travers les ruines. Et c'est assez 19e siècle, hein, les ruines au 19e siècle, c'était Victor Hugo, tout ça, dessinait souvent les ruines. Ça appelle vraiment l'imaginaire, je trouve, les ruines. On peut s'imaginer beaucoup de choses.
Oui, on peut imaginer tout ce qui a pu se passer là. Il y a un côté un peu mystique.
Ouais, oui, voilà. Il y a un côté mystique. Il y a aussi des réflexions sur le temps qui passe, sur la mémoire, sur les traces, sur la survivance aussi malgré tout. Hein. On peut voir la force de la nature qui les recouvre petit à petit, la modernité qui se construit tout alentour. Et pourtant, elles sont encore là, même si elles sont branlantes, même si parfois elles sont que des traces résiduelles. Mais elles sont aussi la preuve d'un passé qui refuse de s'éteindre complètement. Et nous, on essaye d'en restituer quelque chose, même si le propos du groupe n'est pas historique. On puise dans l'histoire et on la prend et on la remodèle avec un univers médiéval fantastique pour dépasser l'histoire et parler à tout le monde. Mais voilà, Dark Annals, beaucoup de morceaux sont imprégnés de patrimoine local essentiellement.
Oui, ça vous inspire en grande partie.
Oui. We'll be right back.
et Dark Annals, je vous ai demandé juste avant, mais ce n'est pas, moi, sur le coup, j'avais pensé qu'il y avait peut-être un, que c'était scandinave.
Eh oui.
En fait, pas spécialement.
Non, pas du tout. En fait, le mot Dark Annals, bon, maintenant, ce n'est pas un secret, hein, puisque c'est facilement trouvable, vient d'un morceau d'un groupe anglais que moi, j'adore particulièrement. Aldébaran l'aime aussi, un groupe qui s'appelle Balsagoth. Dans lequel Dark Knoll est une forêt particulière. Et à l'époque, j'avais contacté le chanteur en disant « J'aimerais prendre ce mot pour donner le nom de notre groupe, mais est-ce qu'on a le droit ?» Et comme il très gentiment demandait de modifier quelque chose, parce que le nom était protégé par ses soins, parce qu'il avait projet de quelque chose autour de ça, et donc on a rajouté le tréma, mais qu'on ne prononce pas, nous. Il est purement visuel, mais c'est vrai que si on devait le prononcer, ce serait Dark Knoll. Mais nous, on dit toujours Dark Knoll, et
oui.
Voilà, c'est juste pour la forme.
Ça donne ce petit côté scandinave qui pourrait aussi faire penser à certains groupes scandinaves de black metal qui peut-être vous influencent ou vous ont plu.
Bah, c'est
ou
sûr que quand on parle de black metal, on imagine quand même beaucoup les pays scandinaves. Hein. Hormis Venom, bon, qui est quand même au nord de l'Angleterre, donc déjà il fait quand même assez froid. Mais Bathory, voilà, les premiers. Celtic Frost, qui est plus en Suisse, mais voilà, c'est quand même dans des pays où il y a un peu de neige. Et bon, bien sûr, Satyricon, Emperor, les premiers Dimmu Borgir. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les groupes qui nous ont inspirés?
Pas mal. C'est vrai que ça, c'est un peu la base, un peu le triumvirat. Mais après, on pourra voir aussi dans les vieux groupes GNA, certains passages d'Immortal. On peut aller chercher aussi un peu plus en Europe, en Autriche, à Bigorre, Mephistopheles pour l'Allemagne. Enfin, on a en fait un réseau effectivement assez étendu. En Suède, on a Dissection, Sacramentum, Dark Funeral éventuellement, ou même Throne of Ass. Enfin, il y a plein de vieux groupes. Nous, vraiment, Dark Knoll, c'est un héritier de la tradition du black metal des années 90, essentiellement 91, 98, 99 éventuellement. Après, on entre dans une démocratisation et une approche du black metal qui commence à s'hybrider avec plein d'autres styles et qui correspond un peu moins. Nous, on est vraiment dans les premières années d'origine. Et notre inspiration, effectivement, elle est norvégienne. Pour autant, ce ne sont pas des paysages qui nous ont inspirés, puisque nous, on n'a pas. On vient du sud de la France, la neige, c'est quand même quelque chose, à moins d'aller très haut dans les montagnes.
Et de plus en plus rare.
Voilà, voilà, ça ne fait pas partie de notre environnement direct, donc notre son ne peut pas coller à cette froideur et à ce côté très ténébreux des forêts scandinaves. Mais voilà, on a quand même de quoi nous inspirer avec des paysages particulièrement sauvages. Comme je dis toujours, à une heure de la Côte d'Azur, enfin du bord de mer, on est dans les montagnes et on peut aller chercher des endroits où moi j'ai été randonné qui n'ont jamais été habités par l'homme, toute histoire, enfin personne n'a jamais été là. Donc c'est vraiment extrêmement sauvage et donc on peut y puiser quand même l'inspiration pour créer quelque chose qui respecte aussi l'origine du black metal.
Et c'est des endroits qu'on connaît un petit peu moins aussi peut-être.
Oui.
Je ne sais pas si c'est très fréquenté. Mais...
La Côte d'Azur, si.
La Côte d'Azur, voilà. Oui, mais ces endroits-là.
Oui, parce que c'est beaucoup situé dans le Mercantour.
Moyen pays, Mercantour. Ouais. Après, il y a un endroit un peu spécial dont on parle dans le dernier album, là, le Fléau du Rocher. C'est Roca Spaviera. Voilà, c'est donc on retrouve dans une chanson qui s'appelle La Cavalerie Fantôme. Et voilà, donc c'est un lieu assez très particulier avec une histoire assez ancienne. Avec des phénomènes en fait qui se seraient passés dans ce coin-là, notamment avec une cavalerie fantôme, notamment avec une reine un peu maudite, voilà, qui a eu en tout cas des soucis. Ouais. Et donc voilà, c'est un lieu assez à la fois sauvage et avec un mystère.
Le vent se lève, tu as mal parlé de la reine, elle se venge. Voilà, elle fait souffler un vent
diabolique.
Qu'est-ce
qu'elle a eu cette reine? Moi, ça m'intrigue.
Cette reine, c'est la reine Jeanne. C'est un personnage assez connu du côté du sud-est et de la Provence de manière générale. C'est un personnage à la fois un peu légendaire et en même temps qui a existé. Mais il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour d'elle qui ne sont pas forcément fondées. Et il y aurait donc une légende qui voudrait qu'elle soit le soir de Noël, elle soit descendue de Roca Spaviera, donc qui se traduit par le rocher des éperviers, pour aller dîner à Quaras, qui est un village de l'arrière-pays niçois. Et en remontant, elle aurait trouvé, selon les légendes, ses enfants morts, voire ne sachant pas qu'ils étaient morts, mais qui a été cuisinés, elle les aurait mangés. Et pour se venger de cette traîtrise qui aurait été fomentée à son endroit, elle aurait maudit le village, effectivement. Et dans l'histoire, ce village a été frappé de nombreuses calamités qui ont fait qu'il a été déserté petit à petit. Aujourd'hui, il n'en subsiste que des ruines. Et c'est un endroit qui est extrêmement fascinant, qui est très chargé en énergie, très imprégné. Et moi, dès que je l'ai visité, c'est un village qui m'a profondément marqué. Et j'étais sûr qu'on en ferait au moins une chanson. Et bien, finalement, on en a fait un album autour de ça.
Oui, donc grande inspiration et grande histoire quand même.
Oui.
We'll be right back.
Là, on s'inspire de l'histoire un petit peu, mais après, le but, c'est de la remanier à notre sauce,
ouais,
pour en faire une création un peu héroïque fantasy, très immersive, très onirique. Le but, encore une fois, c'est pas de faire un ouvrage historiquement fiable.
Oui.
C'est pas l'objectif.
C'est assez un peu romancé, entre
voilà.
guillemets.
Mmh. Voilà, on puise dans l'histoire pour faire quelque chose qui puisse parler à tout le monde et qui embarque l'imaginaire des
ouais.
personnes qui nous écoutent.
C'est pour ça qu'on vous rattache aussi à l'univers médiéval.
Exactement. Ouais. Ouais.
Et à la nature, comme on en parlait
oui.
tout à l'heure, c'est aussi
sûr.
Beaucoup de... Dans le monde du métal, souvent, on se retrouve des thématiques sur la nature.
Oui, ouais. Ouais, c'est assez récurrent.
Ou voilà, on est proche de la nature.
On a même composé un album entier sur la forêt, Memoria Silvarum, mmh. qui est vraiment inspiré des marches, des balades en forêt. Voilà. Donc c'est, voilà. En général, la thématique d'Arkenold, c'est quand même beaucoup le Moyen-Âge, avec ça peut être des batailles, ça peut être la sorcellerie, ça peut être plein de choses, mais voilà, là, c'est, sur cet album, c'est la forêt. Voilà. Mais dans chaque album, on retrouve aussi des ambiances assez comme ça, assez païennes, forestières.
Oui, c'est vrai, païen, on ne l'a pas dit, mais effectivement,
mmh.
il y a de ça aussi.
Il peut y avoir, mmh. ouais, bien sûr.
Mmh.
Oui, on n'est pas un groupe porté sur la religion, que ce soit d'un côté ou de l'autre,
oui.
quoi, entre guillemets sataniste ou,
oui.
ou chrétien, ça existe aussi hein, dans le métal.
Tout à fait.
Mais voilà, on n'a pas cet ancrage-là, même si, bien sûr, au Moyen-Âge, c'était très important. Et toute musique, normalement, voilà, en général, se référait beaucoup, souvent à Dieu ou à l'art en général. Nous, on est un peu déconnectés de ça dans Arkenold, par contre.
Oui, c'est plus par rapport à la nature.
Voilà, ouais.
Et j'avais lu également, ça se rapproche de tout ce que vous me dites, que vous essayez, d'ailleurs c'est ce que vous faites, de faire un black metal le plus épuré possible.
Oui, alors l'objectif pour nous, c'est surtout une approche très authentique et assez artisanale et brute. C'est-à-dire que même si notre black metal est quand même travaillé, Aldébaran est capable, il le démontre dans ses vidéos, puisqu'il a une chaîne YouTube à haut succès où il fait des démonstrations de guitare, des partitions, des solos qui vont du jazz jusqu'à la pop et au black metal.
Oui.
Donc Aldébaran est capable de sortir des solos d'Yngwie Malmsteen, pour ceux qui connaissent,
oui.
sans grande difficulté, mais si ça le fait travailler. Pour autant, voilà, c'est pas de la démonstration, c'est pas le but. Le but, c'est de retranscrire une certaine atmosphère. Et pour ça, la technique, elle est pas primordiale. Le but, c'est de transmettre une authenticité dans l'approche, dans le son. Donc c'est épuré dans le sens où on cherche à retransmettre des émotions et on essaye d'avoir une approche, notamment du son, du paysage sonore qu'on crée, qui soit brut, encore une fois, naturel. Pas quelque chose qui est trop rutilant, trop chromé, trop lissé.
Trop arrangé,
voilà, oui. Beaucoup de groupes aujourd'hui essayent de présenter leur musique de manière la plus audible possible pour toucher un large public. Nous, c'est une façon pour nous de perdre l'essence du groupe. Je ne dis pas qu'on veut sonner comme dans une cave, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre approche, mais on essaye de trouver un juste équilibre entre cette approche du son qui est quand même très affirmée et quelque chose quand même qui reste audible pour le plus grand nombre. Et voilà, c'est cet équilibre difficile à trouver.
Ouais, ça ne doit pas être simple.
Non, c'est jamais simple, les mixages d'Arkenold. Il
ouais.
y a quand même beaucoup d'éléments, mine de rien,
ouais.
entre les guitares électriques, acoustiques, les chœurs, les arrangements de synthé, les samples. Bon, et puis la batterie, c'est toujours une partie difficile à mixer, parce qu'elle est quand même assez virtuose, la batterie d'Abbott. Voilà, et puis on essaye, notamment dans le dernier album, il y a un parti pris assez risqué. Donc notamment ce son assez boisé, assez acoustique de la batterie, qui est assez pur quand même relativement. Et puis bon, pour le reste, ben, on fait ça un peu nous-mêmes avec nos moyens, avec nos connaissances qui ne sont pas toujours parfaites. Mais voilà, ça, on a peur de perdre un peu de nous-mêmes en fait, en allant dans un studio très professionnel, mais qui ne va peut-être pas garder tout ce qu'on veut en fait. Il va peut-être faire les choses mieux que nous, ça c'est très probable.
Ouais, mais ce serait peut-être moins. Il n'y aura pas l'essence de base.
Voilà, ouais. On
toute cette émotion à vous parler.
Voilà, en fait, on préfère que ce soit imparfait, mais au moins, bah voilà, peut-être c'est au moins ça reste proche de nous-mêmes.
Ouais. C'est plus vrai peut-être.
Voilà. Oui, le but effectivement, c'est de faire ressentir l'humanité, qu'il y a des musiciens derrière, qu'avec voilà des approximations, des coups de batterie qui sont pas tous les mêmes. Tout n'est pas trigué, tout n'est pas lissé, tout n'est pas régulé, même si bien évidemment, comme tous les groupes, on fait appel à ça pour corriger certaines erreurs. Mais globalement, voilà, on veut pouvoir retranscrire sur scène ce qu'on fait en studio, et effectivement, chacun y va avec sa patte. Hein. Notre batteur, effectivement, comme le disait Aldébaran, Abbott, c'est à la base, c'est un batteur qui vient du progressif, donc il amène cette touche un peu technique dans des plans qui amènent aussi cette couleur particulière à Darkenhold, qui fait que voilà, parfois il y a des côtés un peu imprévisibles. Mais ça fait pour nous le charme de la formation. Voilà. En tout cas, les gens qui nous écoutent savent pourquoi ils nous écoutent, et je pense qu'on n'est pas un groupe de mode. C'est pas un groupe qu'on va écouter par mode, parce que c'est un moment mis un peu en avant par un label. Nous, on a d'ailleurs des gens qui nous suivent depuis très longtemps, qui sont fidèles, et c'est un honneur pour nous.
Dark Medieval Fest, mais vous avez pas mal d'autres dates prévues à venir. Oui. J'en ai vu quelques-unes, là, comme ça, je ne me rappelle plus. Si on veut vous retrouver dans les temps à venir, vous en avez une ou deux en tête ?
Oui, prochainement, on a une date en Italie, dans la région de Milan. Ça, c'est au Slaughter Club. C'est Un Holy Dungeon, c'est une soirée. On est dans la thématique, je crois.
Totalement.
Alors, et c'est pas fini parce que on va jouer à Nice au Victory Fest le 22 mai, 22 je crois. Et on va clôturer le mois de mai par une date au Royaume-Uni, donc c'est la première fois. Alors, le festival, ça porte bien son nom, c'est le Fortress Festival. Donc, on est cohérent, je pense, là, pour
totalement.
L'instant.
Voilà. Et vous voyagez pas mal.
C'est toujours un plaisir en fait de se retrouver et puis de partir ensemble. Après on se retrouve aussi parfois dans les Burger King de l'autoroute. C'est un peu moins médiéval.
Voilà. Là on est un peu moins dans le thème, mais ça fait partie de la vie en tournée aussi.
Et oui,
hein,
voilà, et oui c'est... forcément, il n'y a pas toujours le choix. Non, il y a toujours une ruine qui traîne.
Voilà, la ruine de notre indice calorique peut-être dans ces cas-là.
Oui, c'est ça.
Mais oui, là c'est les dates. Après on en a deux qu'on espère pouvoir annoncer bientôt. C'est pas encore officiel, donc on ne peut pas vraiment le dire. Mais on en a une peut-être en juillet, on verra, et peut-être une en octobre.
Ça sera à guetter,
voilà.
On va pas le dire là tout de suite.
Pas encore.
Avant de vous laisser peut-être, parce que le temps passe vite, Je me posais la question de qui fait vos visuels sur les albums.
C'est ma mère.
Ah ben voilà.
C'est l'auteur
voilà.
De l'auteur.
L'auteur de l'auteur.
Voilà, Claudine Vrac, donc c'est une... elle fait de la peinture en amateur. Mais alors souvent j'ai une vision assez précise, un peu contraignante d'ailleurs, où je fais un croquis avec vraiment l'image de la pochette que j'ai en tête. Et elle fait des essais, ça passe par plusieurs essais, tout ça, et on arrive à un résultat. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était, voilà, toujours pareil, dans la démarche de l'honnêteté, on va dire, artistique, on fait avec nos moyens, et à la main, avec la peinture à l'huile. Donc ce sont des peintures à l'huile, il n'y a pas d'intelligence artificielle.
Ça fait du bien.
Voilà, ça change un peu ouais, en ce moment. Et donc depuis le début, en fait, depuis le premier album, et on garde une constance. Donc c'est toujours ma mère qui fait les peintures sur chaque album. Donc ça fait 6 albums hein, déjà.
Très belle.
Une hexalogie, on appelle ça.
Et aussi 7, puisque Castellum a eu une deuxième prochaine.
Oui, elle suit bien depuis
donc,
le début.
Donc on a 7 peintures de Claudine.
Ah, bah, donc, c'est super. Voilà.
Toujours des pochettes avec beaucoup d'atmosphère. Quelques couleurs, elles sont quand même voilà, parfois colorées. Et, on n'est pas voilà, toujours dans le black metal non plus puriste non plus. Hein. Dark Annals, c'est quand même un groupe avec le son voilà, qui lui est propre. On ne cherche pas non plus à rester, même s'il y a le black metal norvégien, mais quelque part, je pense qu'on voilà, on fait un peu à notre sauce ce style-là, avec notamment des petits solos de temps en temps. Voilà, il y a du chant français, des chœurs. Voilà,
ça fait sourire les petits solos.
Oui, parce que je le tanne littéralement, je pense, depuis le premier album pour qu'il fasse des solos. Et il a fini, je pense, de guerre lasse par abandonner. Et sur Arcane et Sortilège, il y a quasiment un solo par morceau. Donc, et je crois que ça l'a un peu dégoûté. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'Aldébaran a un niveau technique très élevé, qu'on voit rarement dans le black metal. Et c'était dommage de ne pas en tirer profit, même si le black metal ne se construit pas sur des solos. Mais il y avait moyen d'en faire quelque chose et je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Il a réussi à composer des solos qui ne dénaturent pas la thématique du style, tout en montrant aussi un peu des racines différentes. Hein. Yngwie Malmsteen, Europe, Deep Purple, enfin je sais pas, c'est influences à lui plutôt. Hein, mais...
ouais. Je vais pas faire la liste de tous les guitaristes, sinon on n'aura pas le temps, je pense.
Sinon, oui, après vous allez devoir jouer en plus quand même
voilà,
tout à l'heure. Ouais, vous jouez dans une heure à peu près.
On joue à 21h50.
Ouais, je vais peut-être vous laisser manger. Je crois que vous n'avez pas tous les deux mangé.
Non, on va aller manger.
En tout cas, je vous remercie pour ce moment.
Merci à toi de cet intéressé au groupe.
C'est un plaisir. Et au plaisir de vous écouter tout à l'heure.
Ah ben parfait.
En on live, voilà. Parfait. À la prochaine. À tout de suite même.
À tout à l'heure.
Merci.
Global Metal Warming. Global Metal Warming. Global Metal Warming.